avoir pour le sujet.
Qui doit être en rapport avec la jeunesse.
Oh là là, là, là. Ça, ça va être dur.
Enfin, ouais.
Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu as comme sujet? Hein?
Vieux et jeune, qui est censé être lié au micro-trottoir, on pourrait le faire maintenant, mais avec. Bon, genre, on pose des questions à la main.
Ah non, non, pas ta micro. Non.
Bah, Vincent, alors.
Trop non plus.
Et tu veux poser à quel vieux? À quelle personne?
À quel des vieux? Ah, t'es quel gentil, personne. Toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jeunesse et. Quoi?
Et.
Politique.
Politique, ouais.
Ah oh, ouais. Viens, on parle de ça.
C'est tout ce que t'as dit.
Viens, on parle et de ça, mec.
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur la politique?
Je sais pas, moi, je donne ton avis sur les lois, sur tout ça.
Sur les lois, mais putain, mais tu crois que je m'y connais en politique? Tu crois que je m'intéresse vraiment à ce... Je sais que la Belgique, c'est un peu le bordel.
Mec, les jeunes et la technologie. Ouais, ça, c'est un bon truc, ça. Moi, je le sens bien, là.
Qu'est-ce qu'on peut dire dessus?
Bah, déjà,
génial.
Ah bah on va changer. L'histoire de la jeunesse, ça c'est dans le reportage ça. Et après, le langage. Oh mec, le langage des jeunes. Mec. Là, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Tu vois, okay, déjà teubé. Tu vois, c'est bien, teubé, on engage déjà, tu vois. Tu vois ton père dire Audric, t'es un peu teubé quand même. Est-ce que tu vois ton père dire ça? Non mais c'est.
Mais teubé c'est déjà vieux hein.
T'es fou.
Mais
le mot... bon, ok, t'es fou, c'est une chaîne de télé. D'accord, mais télé.
Non mais
Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Alors pour cette émission de janvier, on est dans un contexte un petit peu particulier avec tout ce Covid et toute cette situation un peu compliquée. Et donc on se retrouve chez moi et donc on va vous présenter une émission un petit peu spéciale. Une forme de rétrospective où on va tenter de vous expliquer d'où vient Radio Clash, qu'est-ce qu'on y fait, comment on y travaille.
Et ce sera une émission très spéciale, Vincent, parce que nous sommes malheureusement rien qu'à deux aujourd'hui. Nous n'avons pas les élèves, les jeunes autour de nous. Et ça, c'est un peu une première. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va en profiter pour vous faire savoir un peu, vous faire connaître les coulisses de Radio Clash. C'est un peu ça, non?
Oui, c'est ça. Donc on va démarrer tout de suite, hein, sans plus attendre. Alors du coup, on va démarrer par des espèces de petites questions qu'on va se poser mutuellement.
Je t'écoute, Vincent.
Et donc la première question, c'est Radio Clash a toute une origine, n'est pas réalisée n'importe où, elle est réalisée dans un contexte particulier. Au sein d'une école et donc je voulais que tu nous en parles un petit peu, Damien. Qu'est-ce que c'est Radio Clash ou surtout où est fabriquée cette émission?
Donc l'émission est fabriquée au sein de l'Entrelien, et l'Entrelien c'est une structure qui fait partie de l'école Escale. Donc on est une école et on accueille une douzaine d'adolescents entre 13, 14 et 20 ans, 21 ans même parfois. C'est tous des ados qui ont la particularité d'être empêchés d'être à l'école. Donc en fait, c'est un peu paradoxal. Ils viennent chez nous, où on est une école en fait, d'enseignement spécialisé. On fait partie de l'enseignement spécialisé de type 5, qui correspond à ce qu'on appelle l'école à l'hôpital en fait. Sauf que concrètement parlant, nous, on a la particularité de ne pas être au sein d'un hôpital et d'être une équipe d'enseignants. Il n'y a pas de soignants avec nous, mais tous les jeunes dont on a la charge, ils sont sous certificat médical qui est fait la plupart du temps par un pédopsychiatre qui donc estime que l'ado n'est pas en mesure de suivre les cours. Et souvent, c'est pour des durées quand même assez longues. On ne parle pas d'une ou deux semaines. Souvent, c'est plusieurs mois, parfois toute une année scolaire. Et donc, dans cet entretemps, ben nous, on prend les jeunes en charge et on essaye, en fait, de faire l'école autrement, de redonner du sens. Donc, souvent, bon, y a beaucoup de profils de jeunes différents, mais très souvent, c'est des ados qui ont perdu le sens des apprentissages, qui ne voient plus de sens aux apprentissages, donc qui sont saturés par l'école dans un état d'épuisement total, qui ne sont plus en mesure du coup de suivre des cours. Et donc la radio, puisqu'on parle de ça ici, c'est un des outils qu'on utilise au sein de l'entrelien pour les remettre en marche, en fait, les raccrocher aux apprentissages. Parce qu'à travers la radio, on en reparlera plus tard, on a l'occasion d'aborder toutes sortes d'apprentissages qui sont ceux, en fait, qui correspondent aux compétences de l'école, enfin, aux compétences des matières scolaires. Quant à l'historique de l'atelier radio, Vincent, je te renvoie peut-être la question. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de Radio Clash, enfin, entre autres? Tu peux expliquer en deux, trois mots
Alors, en deux, trois mots, je vais essayer. C'est pas court, c'est très long, cette aventure, donc, mais je vais essayer de jouer le jeu. Donc, ça a démarré il y a une grosse quinzaine d'années où j'ai démarré pas du tout au sein de l'école Escale, pas du tout dans l'enseignement spécialisé, mais dans une école assez traditionnelle, à Châtelineau, le collège PIDIS, qui est toujours d'ailleurs une école active, qui dégage des projets vraiment un peu intéressants. Et là, j'ai été en charge d'un atelier d'animation, et donc là, j'ai créé un atelier d'animation avec un simple micro, et j'ai tenter d'animer une émission radio avec des jeunes de 4e, 5e, 6e. Donc c'était plutôt un format traditionnel où ils se baladaient dans l'école et ils essayaient de faire vivre l'école au son de cette radio. Puis je suis arrivé à l'école Escale, donc dans une structure qui s'appelle le CTHA, qui est une structure où
Centre thérapeutique pour adolescents, c'est ça.
C'est ça, où ce sont des ados, comme tu expliquais, Damien, tout à l'heure, plus ici, plus qu'en décrochage, et donc hospitalisés. Et là, déjà comme prof, j'ai décidé de reprendre cette idée
de la radio,
mais du coup de l'adapter à ce public. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer un complice, Bastien Paternotte, qui était sociothérapeute et qui m'a aidé à adapter en fait ce projet radio à ce public. Et donc on a vraiment repensé toute la structure, tout le cadre de ce que peut être une radio et de l'adapter à ce type de jeunes et ce type de problématiques. En fait.
On a déjà pas mal parlé, Vincent, du coup. Ouais. J'ai envie de te demander rapidement, si tu as un souvenir d'une première production comme ça que tu as pu réaliser avec des ados qui t'a marqué, qui date déjà peut-être du début et qui a été un peu marquante pour toi.
Ben là, on va écouter peut-être une ou deux petites productions qu'on a réalisées justement avec Bastien à l'époque. Vous allez voir que c'était fait un peu en bricolage puisqu'on n'avait qu'un seul micro. Et on faisait tout avec ce seul et unique micro. Et c'était un petit peu différent d'aujourd'hui. On n'était pas diffusé sur Panique. On faisait ça juste en interne au sein de Radio Clash. Et c'était des toutes petites animations avec des toutes petites capsules audio. Donc on va en écouter une ou deux.
C'est comme patauger dans la boue, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Tu te sens comme un cochon, quoi. Et bien, un cochon, c'est propre.
Non, c'est pas propre.
C'est un animal qui est le plus propre.
Non, non, c'est pas parce qu'il fait des bains de boue. Ceux qui font des bains de boue, ils sont sales après. Hein.
Mais la boue, c'est propre quand c'est une bonne boue.
Quand elle est bonne, la boue. Mais sinon, le cochon, tu crois qu'il va dans la bonne boue? Une bonne boue.
Une bonne boue, c'est une bonne boue, quoi.
De la terre qui a été nettoyée.
Et vous savez ce que c'est, une bonne bouille?
Non.
Oh, la tête de ma petite soeur. Elle est trop mignonne.
Patauger. P-A-T-O-G-E-R.
Vous êtes sûr?
Non.
Patauger. À l'accent de Namur. On patauge, en effet.
Ouais, là, on patauge, grave.
Patauger. Peut-être A-U. Patauger. Voilà, définition synonyme de conjugaison du mot. Je patauge, tu patauges, il patauge, nous pataugeons, nous pataugez, il patauge. Je pataugeais, tu pataugeais, il pataugeait, nous pataugions, nous pataugiez, il pataugeait. C'est A-U. Barboter, hésiter, synonyme. Hein. Barboter, hésiter, nager, s'embrouber, s'embrouiller, s'empêtrer, s'enliser, vassouiller. Pas mal, hein.
Miauler.
Miauler, aboyer, pleurer. Bégayer, ça je l'ai déjà dit. Oui, il y a vasouiller.
Et vous savez bégayer?
Tu dis. Je suis en train de patauger. Ouais, je patauge. Ne pas trouver ces mots. Bégayer. Un canard dans une mare.
Coin, coin, coin.
Dans un vêtement mouillé par la pluie, à mon examen de français. Mais je l'ai réussi. On patauge, mais on réussit toujours. Toujours ça, au début d'une difficulté.
Non, je crois que t'as tout dit.
Ah oui, tout à fait, le patauge.
Sincèrement, seul.
Ouais, seul. Pour moi aussi, seul.
Je sais pas, les deux, c'est bien.
C'est bizarre.
Nous avons envoyé un guitariste dans l'espace.
J'entends rien.
Bah c'est normal, il n'y a pas d'air donc il n'y a pas de son.
Tiens, regarde ce bouton là, t'appuierais pas dessus.
Ah ouais.
Il n'y a pas d'air.
Où est le reste de l'équipage?
J'en ai aucune idée, lieutenant.
Vers l'infini et l'au-delà.
Non, c'est au-delà.
Et au-delà, j'ai dit.
Non, t'as dit et l'au-delà.
Et pas grave, et bah l'au-delà aussi.
Non,
bien.
Non, allez, on recommence avec.
Non.
Dernière fois.
Alors là, on vient d'écouter des petites capsules donc, qui ont été créées dans les premières années de Radio Clash au sein du centre thérapeutique pour adolescents. Et maintenant, on va parler peut-être de ce qu'est Radio Clash au sein d'une autre implantation, l'implantation actuelle, l'Entrelien, qui fait toujours partie, comme tu expliquais tout à l'heure, Damien, de l'école Escale. Et du coup la question que je te poserai, c'est quel est un peu le processus de création des émissions de Radio Clash? Il y en a peut-être plusieurs, hein, mais...
Ouais, mais en fait, le processus de fabrication des émissions, il n'est pas complètement figé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des élèves qui débarquent, qui n'ont évidemment jamais fait de radio, enfin oui, dans quasiment tous les cas, ils n'ont jamais touché à un micro, un enregistreur, à un logiciel de montage. Donc nous, on essaye d'abord de les familiariser à ces outils et aussi dans le même temps de les familiariser avec la radio et avec l'écoute. Donc par exemple, ce qu'on fait systématiquement, en début de chaque atelier, c'est ce qu'on appelle un bain sonore. On écoute une production sonore ensemble et on veille à ce que ce soit, à leur faire écouter des trucs hyper variés. Vincent, par exemple.
On travaille beaucoup avec Arte Radio, on ne va pas tous les citer.
Oui, mais, voilà, on leur fait écouter.
Des fictions.
En fait, ce qu'il y a, c'est que pour eux, la radio, 99% des cas, c'est un type qui parle dans un micro, c'est donc un animateur, quoi, qui meuble entre de la musique, éventuellement des journalistes qui viennent donner des informations. Mais ça se limite à ça, et donc on essaie de leur montrer que la radio, ça peut être beaucoup d'autres choses. On écoute des fictions, on écoute
des
créations sonores hybrides en tout genre. On essaie vraiment d'élargir les horizons, de leur faire découvrir plein de trucs, et du coup de les éveiller un petit peu à une écoute tout à fait différente. Et voilà, souvent ça marche assez bien. Alors après, le processus de fabrication, en général, c'est qu'on a, concrètement, on a 4 ou 5 semaines pour faire une émission. Les jeunes, on les met au travail assez vite, en fait. Ils apprennent sur le tas. En fait, il y en a qui arrivent tout au long de l'année. Il y en a certains qui ont déjà, eu l'occasion... d'utiliser les enregistreurs, les micros. Donc, ils s'apprennent un petit peu entre eux. Ils font un peu le récollage eux-mêmes. Et très vite, on les envoie soit dans la rue, chercher des sons, interviewer des gens. Ils s'enregistrent entre eux. Le processus, il est très varié. Il se fait sur le tas. Alors, il y a des ados... qui ont besoin de maîtriser tout ce qu'ils font, donc qui écrivent, etc. Il y en a d'autres qui font ça très spontanément. Bon, ça dépend aussi du genre de production qu'on vise ensemble. Mais oui, il y a toutes sortes de choses.
Est-ce que tu aurais un exemple? Il y en a plein, des exemples. Mais est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête et sur lequel tu aimerais bien partager ce processus créatif?
On fait des choses tellement variées que c'est pas facile, mais une des choses qui marche assez bien avec les jeunes et je trouve qu'il y a beaucoup de sens, qui est très utile et en plus qui rejoint tout à fait des compétences, par exemple du cours de français notamment, c'est le débat, le travail autour du débat. Et voilà, avec Radio Clash, on a enregistré plein de débats. On ne fait pas que des débats, mais très régulièrement, on en fait. Et je sais pas, je repense, on a fait des débats sur plein de sujets, mais par exemple, il y en a un qui me vient en tête, on a fait un débat sur les jeux vidéo il y a quelques années. Bon, c'est une thématique, évidemment, qui revient super souvent chez les ados.
Parce que,
et c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, parce que la parole, je trouve, était vraiment chez eux, quoi, chez les jeunes, ce qui n'arrive pas souvent. Et d'ailleurs, il y a un manuel scolaire, je ne sais plus lequel, des éditions Plantin, je pense, qui nous a demandé les droits pour utiliser une partie de ce débat comme support pédagogique pour un voilà. Donc,
un petit extrait alors de ce débat. Voilà, on écoute ça.
J'en vois qui trépignent là-bas. Vous aussi, vous avez eu des expériences comme ça?
Ben, on va dire en parlant en direct, c'est vrai que c'est assez contraignant parce que parfois, c'est vrai que, comme l'a fait Kevin ici présent, c'est vrai qu'on s'organise des week-ends un petit peu pour, on va dire, geek. Donc, pour jouer un petit peu sans arrêt avec sa guilde ou sa team ou peu importe. Moi, je sais que c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais fait 48 heures sans dormir sur certains jeux, mais voilà, après, c'est sûr que tant qu'on sait après s'arrêter et qu'on sait après aller, on sait faire ce qu'il faut dans la vie réelle, on sait, comme disait Isalis aussi, dormir, manger, se laver, comme elle disait, ça c'est important, mais voilà, après, tant qu'on sait gérer les deux, voilà, je pense pas que c'est vraiment si grave.
Mais je trouve que les raids, comme ils parlent, c'est cool à faire, quoi, mais c'est genre, on aimerait pas faire ça tous les jours ou toutes les semaines, enfin, ça dépend pour qui, mais genre, si on faisait ça tous les jours ou tous les. Enfin, on va être crevé, je veux dire, si on fait ça par exemple une fois par mois, c'est cool, on s'amuse et tout, mais faire ça tout le temps, ce serait saoulant. C'est juste parce que aussi, c'est des occasions rares et du coup, on les apprécie plus. Et donc, on peut passer plus de temps dessus.
Voilà, Vincent, on est de retour. Toujours en parlant des débats, mais est-ce que toi, tu as d'autres débats qui te reviennent en tête, Vincent? Parce qu'on en a fait pas mal.
Effectivement, on en a fait beaucoup, mais le premier qui me viendrait en tête comme ça, c'est un débat sur l'école. Alors, c'est assez étonnant aussi parce que dans le processus, parfois, on leur impose, entre guillemets, certaines thématiques. En tout cas, on leur propose une liste de thématiques.
Thématiques d'émissions.
D'émissions, de sujets. Et alors, assez régulièrement, on leur propose aussi de choisir, donc de discuter entre eux. Donc on les laisse un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils réfléchissent, ils débattent et puis ils décident du sujet, ils s'arrêtent sur un sujet qu'ils nous proposent et donc on travaille sur le sujet
pendant un mois après quoi.
Et alors très régulièrement chaque année ils nous proposent de faire un débat sur l'école. C'est parfois assez étonnant.
Parce qu'on pourrait s'attendre, moi en tout cas je m'attends souvent à ce qu'ils proposent des trucs un peu plus farfelus, je sais pas, les mangas. Et en fait, non, très souvent on a des thèmes sérieux en fait, desquels.
Notamment celui de l'école qui revient à peu près chaque année. J'ai en tête un débat qu'on a réalisé sur l'école. Où aussi la parole était très très engagée. On avait deux trois ados très très impliqués et donc j'ai l'un ou l'autre souvenir de passage de cette émission. Donc on va écouter un petit bout de ce débat qui date déjà de quelques années.
Mais qui reste pertinent.
On écoute ça.
Ça dépend, hein. Il y a 90% de conneries et 10% d'utilité, quoi. Enfin, quand t'apprends le français, oui, au début c'est utile. Et voilà. Enfin, ça c'est la base, mais en maths, quand tu vois le théorème de Pythagore, tu te dis bah merde, je vais pas appliquer ça sur mes tomates, quoi. C'est tout con. C'est limite, ils t'apprennent au niveau de la réduction, enfin des pourcentages, ça c'est utile, hein, c'est la base en secondaire, ce qu'on voit généralement. Tout ça c'est utile, mais à partir du moment où t'es en art et qu'on te fait voir un truc d'ingénieur, tu te dis merde, je suis où, je fais quoi là, c'est pas utile, je vais pas commencer à faire un truc comme ça, quoi. Enfin. C'est tout con, il y a des trucs qui permettent de comprendre ce qui est autour de nous, surtout au niveau des maths, ça c'est la base. Mais sinon au niveau du monde politique, de toutes ces conneries-là, ils vont pas t'apprendre à payer ta fiche d'impôt, quoi. C'est tout simplement, ils t'apprennent à compter les tomates, mais bon, ta fiche d'impôt, tu vas la remplir tout seul. Hein.
Radio Clash, ben, c'est aussi des rencontres. On essaye un maximum.
Des très belles rencontres.
Ouais, on essaye au maximum de sortir de l'école et d'aller rencontrer des gens ou de faire venir des gens à l'entrelien ou aussi de les contacter par téléphone ou par. Ouais. Et donc, ça a été vraiment le lieu de plein de rencontres différentes. Tu peux nous en parler un peu, Damien ?
Ouais, mais effectivement, d'abord, j'ai envie de réinsister sur le fait que oui, étant donné qu'on travaille avec des ados dont la problématique, souvent, c'est d'être à l'arrêt, d'être coincé, on pense que c'est évidemment très, très important de sortir. Donc, on organise beaucoup de sorties et de rencontres. Et la radio, évidemment, c'est un excellent prétexte pour aller à la rencontre des gens. Que ce soit des quidam, mais aussi d'aller à la rencontre de gens qui sont spécialisés sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Et là, on a fait des rencontres assez incroyables. Ouais, comme tu me poses la question, moi, je repense à plusieurs rencontres, mais alors il y en a eu qui malheureusement qui n'ont pu se faire que par téléphone, mais qui ont été super intéressantes. Et là, je repense notamment, une fois, on a fait une émission, un sujet qui a été choisi par les jeunes, de nouveau, vous voyez, c'est un sujet très sérieux, sur que se passe-t-il après la mort. C'était ça la question de l'émission.
C'était costaud, ça.
Que se passe-t-il après la mort. Et on a eu la chance d'interviewer des chercheurs d'un groupe international qui s'appelle, je ne sais plus exactement, il faudra aller revoir, mais le Coma Group, International Coma Group, quelque chose comme ça. Et donc, il y en a notamment qui travaillent au sein de l'Université de Liège, qui font partie de ce groupe de recherche international. Et voilà, on a pu les interviewer sur le sujet des expériences de mort imminente, les EMI, comme on les appelle. C'est un sujet vraiment passionnant qui avait passionné les ados, et nous aussi d'ailleurs.
On va écouter un petit extrait, ouais, peut-être.
Bonne idée.
Que se passe-t-il avec le cerveau au moment de notre mort ?
C'est parce que c'est une question très délicate et en fait, on n'en sait pas beaucoup au niveau niveau de la science, mais lorsqu'on meurt, notre cerveau s'éteint. Donc il n'y a plus aucune activité cérébrale dans notre cerveau. On peut dire que le cerveau est dit en activité de mort cérébrale.
Comment expliquerez-vous de la façon la plus simple ce qu'est une expérience de mort imminente ?
Alors pour résumer, parce que c'est une expérience assez complexe, mais je dirais que c'est un état très particulier où la conscience est altérée et où les personnes vont alors vivre et ressentir différentes dimensions, comme par exemple voir une lumière, avoir une impression de rentrer dans un tunnel ou encore une impression de sortir de leur corps.
Mais alors, du coup, est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce que le cerveau est éteint à ce moment-là ? Non.
Donc, justement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore, je dirais, mais nous pensons que non, le cerveau n'est pas éteint totalement. Le cerveau est comme diminué, son activité est diminuée, mais il n'est pas éteint totalement. Donc, en fait, ici, l'expression « expérience de mort imminente » est en fait liée à cette expérience, mais nous, on pense que le nom donné à cette expérience n'est pas juste parce que le cerveau n'est pas éteint.
Oui, il faudrait l'appeler autrement que « mort imminente », en fait, puisque...
Exact, c'est ce qu'on aimerait faire dans les années à venir.
Donc, ah oui, donc Vincent, de retour dans Radio Clash, je voulais te demander, Vincent, toi, tu as d'autres rencontres parce que, qui te viennent à l'esprit, des rencontres marquantes, puisqu'il y en a eu beaucoup.
Ben oui, moi je me rappelle de... c'est Luc Skuyten ?
Oui, l'architecte.
Ouais, l'architecte, dessinateur.
Le frère de François Skuyten.
Voilà, qui nous a vraiment qui a accepté un échange avec les jeunes par visioconférence, c'était vraiment passionnant. Et le débat tournait autour du futur. Et donc, il nous donne un petit peu son approche et sa vision du futur, puisqu'il a énormément travaillé sur...
La ville du futur.
Oui, c'était sur la ville, et surtout au niveau de l'architecture.
Allô ?
Oui ?
Monsieur Skuyten ? Vous nous voyez ?
Je vous vois.
Ok, nous, bah voilà, nous ah, aussi, voilà. Ça y est. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Ben d'abord, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour discuter avec nous. Mais je vais laisser la parole à François, donc, qui a préparé quelques questions pour vous. Voilà.
Alors, dans combien de temps pensez-vous qu'il sera possible de construire une ville comme celle que vous l'imaginez dans vos travaux ?
Oula. c'est très très difficile à répondre parce que ça dépend surtout des moyens financiers, techniques, intellectuels qu'on va mettre en place pour pouvoir développer ce genre de technique. Prenons un exemple très simple. Lorsque les Américains se sont donné comme objectif d'aller sur la Lune, la mission était totalement impossible. Personne ne savait comment faire, on n'avait pas les techniques. On n'avait pas les calculs, les moyens de le faire, mais ils ont réuni les savants les plus compétents, ils leur ont donné tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler et leur ont donné les cartes blanches pour arriver le plus vite possible, parce qu'il y avait une course à faire vis-à-vis des Russes. Les Russes avaient gagné la première partie de ces courses en envoyant les premiers une fusée dans l'espace, et les Américains ne voulaient absolument pas jouer le deuxième rôle, donc ils voulaient absolument battre les Russes. Donc les capitaux étaient énormes, et on a réuni vraiment toute l'intelligentsia. Et en moins de 10 ans, on est arrivé à envoyer une fusée sur la Lune. Parce que là, il y avait la motivation et les compétences. Si jamais on devait être dans une même configuration, on devait se dire, c'est ça que nous voulons. Et là, on est prêt à faire les efforts nécessaires pour y arriver, c'est-à-dire mettre les laboratoires, les centres de recherche, mettre tout le monde au travail pour pouvoir avancer vers une utilisation optimale de tout ce qui est durable, on pourrait arriver beaucoup plus vite à des résultats. Si maintenant on laisse tomber ou on met tout à fait de côté cette hypothèse-là, ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps. Donc c'est surtout un choix de société. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. On sait que si on travaille avec le vivant, on a des matériaux de construction qui sont inépuisables. Parce que le vivant a la possibilité de se reproduire par lui-même. Et c'est une source de richesse considérable. Mais pour le moment, les intérêts particuliers des décideurs, des grosses fortunes, des grosses entreprises, est de continuer dans tout ce qu'ils ont déjà mis en place et dont ils ont déjà assez bien de savoir-faire. Donc, eux pensent qu'il faut continuer le plus longtemps possible dans une société de consommation. Or, tout le monde sait qu'une société de consommation qui épuise aussi vite toutes les richesses de la planète n'a pas de chance de pouvoir continuer très longtemps dans ce sens-là. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent à mettre en place des alternatives.
Alors, comme dernier petit extrait peut-être d'une rencontre importante, c'est celle de Calixto Suarez. Damien, tu vas nous en parler, puisqu'il est venu à deux reprises.
Ouais, on a eu la chance inouïe, j'ai envie de dire, de rencontrer Calixto Suarez. En fait, c'est un... Donc, on l'appelle un MAMO, c'est-à-dire c'est un guide, un chef spirituel, politique indien, donc d'une tribu, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, de Colombie, du nord de la Colombie.
Dans les montagnes.
Voilà, qui vit encore de façon traditionnelle, qui s'appelle les Arhuacos. Et donc, il fait des tournées... En Europe et même à travers le monde entier, je pense, pour défendre la cause des peuples indigènes. Mmh. Et donc, on a pu l'accueillir chez nous, à l'Entrelien. Et c'était incroyable, évidemment, parce que c'est une personne qui dégage quelque chose qui transcende, quoi, vraiment
puissant,
très, très puissant. Et voilà, et on a eu l'occasion de le faire parler, de discuter avec lui. Alors, ça se passait en espagnol, il y avait un traducteur à chaque fois avec nous. Mais ça, je pense que c'est une rencontre qui a marqué vraiment tout le monde, les adultes, mais évidemment les jeunes aussi, parce que c'était une rencontre complètement inédite.
Et je pense que la thématique du débat, du sujet, c'était la Terre.
Oui, retour à la Terre. Voilà. Une émission sur le retour à la Terre.
El universo, ¿qué es?
L'univers, c'est quoi?
¿Qué es? Nos preguntamos.
On se le demande.
Y el planeta Tierra, bueno, la vemos, ¿no? O sea, existe. Que podríamos ver con nuestros ojos.
La planète Terre, en tout cas, elle existe parce qu'on la voit avec nos yeux.
Y Dios, ¿qué es?
Et Dieu, c'est quoi?
Una ilusión, pero existe.
C'est une illusion, ça existe.
Entonces, el alma de uno y el cuerpo físico es igual.
L'âme d'une personne et son corps physique, c'est la même chose.
Es igual. Por eso es el amor, o sea, el valor, la gratitud para uno mismo.
Donc pour ça, c'est l'amour, la gratitude qu'on a pour soi-même.
Con uno mismo. Eso es lo importante, ¿no? Para vivir la vida.
Ça, c'est l'important pour vivre la vie.
Entonces, cuando uno no se valora, no se da su amor, uno no está viviendo.
Donc c'est pour ça que quand on ne se donne pas à nous-mêmes l'amour, alors on n'est pas en train de vivre.
Entonces, ahí donde se crea la diferencia de la dualidad.
C'est là que se crée la différence de la dualité.
Porque no hay amor dentro de uno.
Parce qu'il n'y a pas d'amour à l'intérieur de soi-même.
Eso es lo primero.
Ça, c'est la...
hablar, antes de hablar del cambio climático, todo esto.
Ça, c'est la première chose de laquelle il faut parler avant du changement climatique, etc.
Entonces, seres humanos, no estamos viviendo la vida, sino estamos viviendo lo que no es de nosotros.
Alors, nous, les êtres humains, on n'est pas en train de vivre la vie si on n'est pas en train de vivre notre vie.
Por eso nos gusta hablar de la vida.
Bon, Vincent, on a beaucoup parlé de rencontres, d'interviews, de débats, mais on fait aussi beaucoup de fiction et de choses plus, parfois plus délirantes dans Radio Clash.
Carrément,
tu
carrément.
Tu peux en dire un mot ?
Oui, oui, tout à fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, on essaie de faire écouter aussi aux jeunes pas mal de petites choses en démarrant les ateliers, et notamment des fictions, où on leur montre aussi que les codes radio peuvent être différents de ce qu'on entend habituellement sur les grandes ondes. Et du coup, moi, un premier exemple qui me vient en tête, c'est un travail que j'ai réalisé à l'époque, ça date déjà, autour des monstres.
Ah, ça, tu aimes bien les monstres.
Mmh, j'aime bien, oui. Et il y a notamment dans cette thématique, on avait réalisé une émission sur les quatre grands monstres emblématiques. Il y avait Dracula, le Yeti, le Loch Ness, voilà. Et il m'en manque un, le loup-garou, je pense. Et notamment ici, on va écouter l'extrait qu'on avait réalisé sur le Yeti. Et c'est d'ailleurs une capsule qui a été reprise après. On a eu beaucoup de chance d'être repris sur Faune Radio.
Ah, ça, c'est une super radio.
Qui a beaucoup apprécié cette capsule et qui souhaitait la pouvoir...
Faune Radio, P-H-A-U-N-E, hein, ne pas confondre avec Fun Radio.
Voilà. Exactement. Donc, vous allez écouter le Yeti et vous allez entendre là-dedans un processus assez particulier qui est un mélange entre du micro-trottoir, des extraits mash-up tirés de diverses émissions, et tout ça a été mixé et monté par les ados, et donc ça donne une capsule assez particulière.
Monsieur Desmond Doyle, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti?
Sable chance de timi yeti go asli ali gornu saksa ki sakden gornu saksa lok gorum kwai 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 kwai.
Ce que je connais le mieux, c'est le yeti, donc c'est une espèce de personnage mi-homme mi-animal qu'on trouvait au Tibet et qui est évoqué dans Tintin au Tibet. Voilà, je pense qu'on n'a jamais réussi à le prouver. On a trouvé des traces de pas, mais on n'a jamais, ou des reliefs de sa peau, mais on n'a jamais pu prouver effectivement qu'il était vivant. Enfin, c'est comme c'est loin, dans la neige, il est brun-noir, c'est vraiment un beau contraste.
Ce scalp présumé du Yeti va peut-être détruire la légende. Croyez-vous que ce scalp soit un véritable scalp de Yeti ?
Jusqu'à présent, je répondrais oui, avec des réserves. Si ce n'était pas un scalp, il me semble que tous les courants de poils devraient aller parallèlement à cette espèce de crête. Or, il se présente perpendiculairement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je crois à l'authenticité de ce scalp.
Quoi ? Quoi ? Quoi ?
Non, parce que je connais pas je connais le Yeti, je sais qu'il y en a un qui se trouvait, paraît-il, dans les montagnes, mais on l'a jamais retrouvé. Il n'existe pas forcément. Mais tout le monde te décrit comme étant poilu, grand, gentil ou méchant, selon ceux qui l'ont, paraît-il, rencontré.
Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?
La légende du Yeti, c'est des gens qui avaient vu dans l'Himalaya un monstre considéré comme un homme extraordinairement grand, velu, tout ce que vous voulez, mais qu'on ne pouvait pas approcher, qui toujours quand il était disons dans la vision disparaissait tout d'un coup. Et c'est resté pour des dizaines d'années, et la légende du Yeti tient toujours, parce qu'on ne l'a jamais trouvé.
La légende du Yeti, le Yeti, c'est soi-disant l'homme des neiges, hein. C'est-à-dire qu'il est couvert de poils, qui ressemble à un singe, et qui se balade dans la neige, dans la haute montagne.
Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?
Donc, comme vous avez vu, on aime bien un peu bousculer les codes. Et du coup, Damien, je pense que tu vas nous parler d'une capsule aussi où on a pas mal bousculé les codes.
À, Oui, on a fait ça plusieurs fois. C'est mélanger un peu les codes du reportage et de la fiction. C'est très pédagogiquement aussi, ça a beaucoup de sens pour réfléchir aux différentes constructions narratives. Et donc, voilà, on trouve ça très intéressant avec les ados. Et je repense notamment à une production. Je pense qu'on travaillait sur le thème des vampires. Et on avait des ados qui voulaient donc faire une fiction, mais qui, voilà, une fiction, ça demande généralement, pour que ça aille un peu de la gueule, ça demande quand même pas mal d'écriture. Faut que les répliques, elles sonnent bien, elles aient l'air vraies. Donc ils s'en sortaient pas trop. Et donc on leur a suggéré, mais aller interviewer des gens dans la rue. Mais ils étaient là, mais enfin, sur le thème des vampires, mais ils vont nous prendre pour des idiots, ils vont nous rire au nez. Ben oui, mais c'est pas grave, faites-le quand même, allez-y, on va voir ce que ça donne. Et donc c'est parti comme ça, et ils sont partis interroger des gens sur la question du vampirisme, mais en prenant la question très très au sérieux. Et voilà, la réaction était assez surprenante. J'imagine. Ils ont construit une fiction sur base de ça qui était assez chouette.
Allez, on écoute ça. Vampire, vous avez dit vampire.
Bonjour.
C'est pour un don de sang?
Non, justement, c'est pour un reportage pour la radio.
Alors, il faut d'abord demander l'autorisation au médecin. D'accord. Qui va sortir là et vous lui demander.
Bonjour, excusez-moi, on peut vous déranger 2 minutes?
Oui, je suis disponible, il n'y a pas de problème.
Alors oui, on était informé qu'ici, il y aurait eu des vols de poches de sang. Est-ce
que vous confirmez? Mais c'est-à-dire que nos poches de sang, c'est vrai que normalement, on les surveille parce qu'on les a à côté de nous, là, toute la journée. Mais en fin de journée, on les stocke dans la réserve. Et puis, voilà, il y a eu un souci.
Donc, ils ont été volés, pas de traces ni rien?
Ils ont emmené les bacs tels quels. Donc, ce sont des frigobox dans lesquels on met les poches. Et puis, les frigobox ont disparu, quoi. Donc, où sont-ils? Ça, j'en sais rien.
Est-ce que vous avez peut-être une idée sur qui les aurait volés?
Alors, c'est difficile de mener l'enquête parce qu'ici, c'est un bâtiment public et il y a plein de passages.
Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger un petit instant?
Pas vraiment, parce que j'ai un rendez-vous dans 5
minutes. D'accord. D'accord, merci. Excusez-moi. Bonjour, est-ce que je peux... D'accord. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger 2 minutes? Non, d'accord. Bonjour, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous déranger 2 minutes?
Pas plus, ça.
Oh non, il n'y a pas de problème. Parce qu'au fait, je suis jeune journaliste et j'ai comme projet, en fait, de faire un reportage sur des vampires. Et si vous êtes d'accord de répondre à certaines de mes questions...
Sur les vampires?
Oui, c'est un peu fou, mais c'est ça. Donc au fait, ce que j'ai entendu, derrière, au don de sang, à la Croix-Rouge, il y a eu des vols de pochettes de sang. Et je pense qu'en fait, ces gens, ces personnes, ce sont des vampires qui ont fait ça. Et je sais pas si vous avez entendu quelque chose par rapport à ça.
Non, je n'ai rien entendu.
Il n'y a pas de cas étrange sur le site, jamais?
Non.
D'accord. Je peux vous déranger 2 minutes, s'il vous plaît?
2.
D'accord, juste 2 minutes. C'est au fait pour vous demander si... Enfin, en fait, je suis journaliste, un jeune journaliste qui a comme projet de fin d'année de faire un projet sur des cas de vampirisme. Et j'ai entendu que sur le site...
De vampirisme?
Ah oui, c'est ça.
Excusez-moi, c'est assez mais fou. Là, j'y crois pas trop, là.
D'accord, merci.
Là, vraiment, je suis désolée, mais okay. Franchement, je ne marche pas là-dedans.
D'accord.
Alors, Vincent, comme je le disais, t'adores les monstres et je pense que t'avais envie de parler de zombies ici. Ça te brûlait les lèvres.
Ah, c'est super. Non, en plus, dans cette ambiance déjà un petit peu
apocalyptique,
on a décidé de faire une émission complètement folle il y a, je pense, 3 ans autour de la thématique des zombies. Et je crois qu'on a eu cette idée assez rapidement. C'est qu'on s'est dit, ben, dans le fond, on va imaginer toute une émission un peu à la Blair Witch, où on se retrouve dans le studio et où il y a effectivement vraiment une invasion de zombies dans Bruxelles. Et donc, pendant 60 minutes, on est dans un truc complètement immersif où on fait croire un peu aux auditeurs qu'on est vraiment
envahi et que donc on a envoyé des jeunes en reporters, des envoyés spéciaux.
Des grands journalistes.
Tout à fait.
À la morgue de l'hôpital, je pense, oui, voilà. Des trucs comme ça.
Et donc c'était une émission très très intense qui monte de plus en plus et pour une finale apocalyptique assez surprenante.
Cool.
On va écouter un petit morceau.
Alors, voilà, retour en studio, toujours dans une situation délicate. Alors, j'ai pu reprendre contact avec les talkie-walkie grâce aux talkie-walkie, puisque je vous rappelle que toutes les lignes de téléphone et toute l'électricité est coupée dans toute la ville de Bruxelles pour le moment. Et donc, j'ai pu heureusement reprendre contact avec Tanguy Willems et la preneuse de son, Daphné, donc qui se trouve toujours dans l'hôpital. Est-ce que tout va bien, Tanguy? Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur votre état de santé? Ok, Tanguy, gardez votre calme. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous sembliez avoir été poursuivi. Est-ce que vous avez vous-même été confronté à ces fameux zombies? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Poursuivi par un zombie, et là, il y en a derrière la porte, elle a occupé. Quoi, c'est la porte?
Tanguy, restez bien en sécurité. Nous avons essayé de contacter les forces de l'ordre pour vous envoyer de l'aide. Ne paniquez pas, Tanguy.
On comprend rien, on n'a plus de signal.
Tanguy. Bon, apparemment, on les a perdus à nouveau, Tanguy.
Alors ?
Tanguy. Bon, c'est assez inquiétant, je ne sais pas ce qu'on entend exactement. Oula, ça a l'air assez inquiétant. Alors, je ne sais pas si on va rester en Tanguy. Oula, je ne sais pas exactement, Vincent, ce qui leur arrive. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent? Alors, je suis désolé, c'est assez surprenant. On est toujours en direct, on ne sait pas nous-mêmes.
Mais la défense nous demande de quitter les lieux. Nous, on reste ici dans le studio. Je pense qu'il faut rester, Damien. Ouais. On va tout doucement un petit peu terminer parce que là, on a déjà écouté beaucoup de choses et on va arriver bientôt à la fin de cette émission. Mais je pense qu'on pourrait parler d'une émission, je pense, qu'on a réalisée il y a un an, plus ou moins. C'était une émission sur l'amour et la sexualité. C'était une émission assez particulière et qu'on a d'ailleurs réalisée à Radio Panique dans le studio de Radio Panique, parce que habituellement on n'enregistre pas à Radio Panique. Donc tu peux nous expliquer un peu le contexte?
Oui, parce que donc habituellement, la plupart du temps, les émissions, souvent en plus en début d'année, on fonctionne comme ça, on fait ce qu'on appelle un faux direct, c'est-à-dire on enregistre, on accumule toute une matière sonore que les jeunes vont après utiliser, traiter, monter. Et puis, on remonte une émission d'une heure avec tout ça. Sauf qu'à certains moments, on trouve que c'est intéressant aussi, c'est de se frotter un peu plus au direct. Et donc, on l'a fait déjà soit en déplacement, en extérieur, donc en duplex, j'ai envie de dire, mais aussi dans les studios de Panique. Et là, c'était le cas pour une émission sur, effectivement, sur l'amour et la sexualité. Et ouais, ça c'est évidemment un super sujet qui peut être assez casse-gueule, parce que parler de ces thématiques-là à l'école, c'est quand même pas évident. Mais voilà, nous on a estimé que c'était intéressant de le faire, et surtout que l'idée venait des jeunes, et de le faire, mais voilà, en l'encadrant et... Voilà, en donnant une parole libre, mais quand même encadrée. Et donc, on avait notamment invité...
Une psychologue, voilà, centre de guidance d'Etterbeek, Nathalie Paiva, je me rappelle. Mm-hmm. Et donc, on va peut-être écouter un petit bout de cette émission qui était assez emblématique puisqu'on l'a enregistré à Radio Panique et c'est vrai que de nouveau la parole était, était assez engagée, assez libre sur un sujet qui pourtant est un petit peu tabou et reste un peu tabou.
Et sur lequel ils avaient, je pense, même réalisé aussi des petites fictions humoristiques. Ouais. On pourrait, si on a le temps, en réécouter une aussi qui me vient à l'esprit d'ailleurs, une très amusante. On verra si on a le temps, mais on écoute ça.
Wunderbar, Liebling.
Bitte küss mich.
Attends, attends, non, ne rentre pas.
Coucou, mon chéri, je suis rentrée du boulot, ça va?
Mais maman, combien de fois je t'ai dit de pas rentrer dans ma chambre comme ça? J'ai 15 ans maintenant, laisse-moi.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film? C'est quoi? Je peux voir?
Non. Laisse, c'est mon ordinateur.
Oh là là, dis donc. Mais dis, t'es vraiment de mauvaise humeur, toi, aujourd'hui, mon chéri. Tu veux pas regarder ce film avec ta maman, chéri?
Non.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait un truc tous les deux.
Non, et non, non, maman, je veux être seule, j'ai besoin d'être seule. Tu comprends ça? Ça rentre dans ta tête ou pas?
Ah, mais c'est toi qui prends toutes les boîtes de mouchoirs. Mais dis, si t'es enrhumée comme ça, il faut aller voir un médecin quand même, mon chou.
Mais non, maman, je suis pas enrhumée, arrête de raconter n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces mouchoirs alors? Ah, mais oui, mais tu refais des statues en papier mâché, comme quand t'étais petit. Attends, je peux voir, donne-moi ça.
Non, maman, touche pas, c'est dégueulasse.
Oh là là, mais t'es vraiment d'une humeur exécrable, toi, aujourd'hui. Bon, mais ça va, je te laisse alors. Ça doit être normal, hein, c'est sans doute ce qu'on appelle l'adolescence. Allez, je t'appelle tout à l'heure pour le souper. Bisous, bisous.
Donc voilà, vous venez d'entendre la fiction sonore. Donc vous êtes toujours sur Radio Panique et vous écoutez Radio Clash, l'émission des jeunes de l'Entrelien. Et on continue à présent avec la suite de notre débat du jour sur la sexualité des jeunes.
Et pour cette seconde partie de débat, un sujet un peu délicat, la pornographie. Et une première question que j'ai envie de lancer, c'est est-ce que la pornographie c'est mal, ou est-ce que c'est dangereux, ou est-ce que c'est juste normal? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut entamer les hostilités? Sarah?
Alors pour moi, la pornographie c'est pas mal ou dangereux, mais c'est pas non plus normal. Enfin, je veux dire, dans le sens... pour moi, du moment que l'adolescent est au courant que c'est pas la vraie vie et que ça marche pas comme ça, la sexualité, bah, tant mieux et ça me dérange pas. Mais quand le jeune ne sait pas c'est quoi la sexualité et croit que c'est comme la sexualité, ça se passe comme dans les pornos, bah, je trouve que ça va pas et qu'il doit être informé par un ado ou quelqu'un de son âge, enfin, par, oui, un ado ou un adulte, parce que ça, c'est pas normal. Parce que c'est un film, c'est pas la vraie vie.
Vous êtes d'accord avec ça, Damien?
Personnellement, je pense juste que tant que le jeune sait que c'est que ce qu'il voit dans les films, dans les séries ou enfin, dans les dessins animés ou quoi, tant qu'il sait que c'est pas la vérité, je crois que ça devrait aller.
Moi, je trouve, par exemple, si t'es plus jeune et tu tombes sur ça, ça abîme un peu ton innocence, je trouve. Mmh. Par exemple, si mon petit frère il tombe sur un site porno, je trouve que ça gâche un peu tout, quoi.
Ouais.
Je trouve qu'il y en a, mais il y en a un peu trop. Parce que dans tous les sites, il y a des pubs, c'est de la pornographie, on en voit de plus en plus. C'est une industrie qui ramène beaucoup d'argent. Enfin, on dit que c'est tabou, mais il y a au moins quasiment presque tout le monde qui a déjà vu un film pornographique.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour protéger les petits frères, les plus jeunes?
Je pense à partir d'un âge, aller sur les sites avec eux. Enfin, pas sur les sites porno, mais je dirais pas avant un certain âge, aller tout seul sur Internet.
Ok, donc limiter l'accès, enfin surveiller ce qui
ouais,
se fait.
Je pense que c'est très important. Surtout que la pornographie a aussi, ça peut devenir addictif parce que c'est quelque chose de fort.
Voilà, Vincent, donc, on arrive déjà hein, presque au terme de cette émission. Pour conclure, Radio Clash est toujours vivant, hein, et donc est-ce que tu pourrais nous parler des prochaines émissions, des émissions à venir? Donc ce sera pour février.
En tout cas, je vais te parler d'émissions de février qui sera consacrée à un prix littéraire autour de la littérature ado. C'est un prix qui s'appelle le prix Farniente. Donc du coup, cette émission va être, je pense, très très riche autour de
cette thématique. Nos ados chez nous ont d'ailleurs lu toute une série de romans, participer.
De la sélection pour le prix Farniente.
Ils vont participer donc à ce prix. Et donc l'idée, c'était vraiment de vous faire découvrir, à vous, auditeurs, ce prix. Et, voilà,
et les romans de la sélection, et les auteurs, et tous les gens qui gravitent autour de ce projet.
Donc ça sera pour début février. En attendant,
voilà. Et le prix Farniente, d'ailleurs, il sera remis au mois de mai. Et on essayera de faire une émission en direct à ce moment-là aussi, sur Panique.
Mais donc, on vous souhaite quand même une très bonne année.
Voilà. Et on se retrouve au mois de février.
À très bientôt.
Merci. Merci à tous.
C'était Radio Clash, l'émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Vous pouvez retrouver toutes nos productions sur www.radioclash.be ou sur www.radiopanique.org/émission au pluriel/radioclash.